J'ai une copine en fait qui était en prépa littéraire avec moi. Donc elle, c'est pareil, elle sait toujours pas ce qu'elle veut faire. Donc il y a une époque, elle voulait être bibliothécaire. Puis finalement, ça l'a saoulée, donc elle a changé d'idée. Maintenant, elle va être prof. Donc elle passe les concours, etc. Mais elle passe les concours sans trop de conviction non plus. Donc au fond, c'est quelqu'un, on sait pas vraiment ce qu'elle veut faire dans la vie. On sait pas vraiment quelles sont ses véritables inspirations. Et on a l'impression que les choix qu'elle fait sont les choix les moins pires, disons les choix par défaut. Cambriolé il y a à peu près un an. Et du coup, depuis, j'ai trois serrures depuis ce cambriolage. Et je les ferme toutes à double tour. Ce qui fait beaucoup de bruit en fait. C'est une sacrée logistique. Mais bon, maintenant j'ai le bon coup de main. Donc là, on est chez moi. Donc j'ai un salon avec un coin cuisine. Et j'ai une petite salle de bain. Et puis j'ai une chambre à côté. Le tout au deuxième étage. C'est plutôt bien éclairé. Dans un immeuble assez vivant. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de bruit. Donc moi c'est un immeuble que j'aime bien dans un quartier qui est plutôt agréable. Et donc voilà, c'est mon petit chez moi. Depuis que je gagne bien ma vie, j'ai pas forcément envie de déménager en fait, parce que tout simplement parce que le loyer est vraiment pas cher. Alors du coup c'est vrai que ça fait une trentaine de mètres carrés, je pourrais prétendre à plus grand. Mais en fait moi ça me suffit d'avoir un deux pièces pour l'instant. J'ai pas d'enfant ni rien, donc je vois pas trop l'intérêt de déménager pour l'instant en fait. Pour l'instant j'y suis bien. Alors je m'appelle Alice, j'ai 25 ans. Quelqu'un m'avait demandé où je me voyais dans 5 ans et ce que je voulais faire, et j'avais dû répondre quelque chose comme bah dans 5 ans je serai actrice oscarisée. Et la personne avait rigolé évidemment, enfin c'est quelque chose qui me plairait évidemment, mais complètement irréaliste quoi. Donc il y a un moment il faut aussi revenir sur terre. C'est un métier qui est complètement bouché et j'ai préféré assurer la voie de la sécurité alimentaire et de même pas m'y engager. Je me considère comme quelqu'un d'assez pragmatique, oui. Le problème, c'est qu'on a des diplômes. On est trop diplômé par rapport au marché du travail, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop diplômés par rapport à ce qu'on leur donne à faire. Du coup, ça crée une génération de gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas de boulot, qui du coup sont un peu paumés, qui en même temps réfléchissent sur eux-mêmes, qui se posent beaucoup de questions. Et du coup, je pense que c'est ça qui crée une sorte de mal-être, un peu, peut-être dans ma génération, avec beaucoup de gens qui sont au chômage, qui savent pas trop pourquoi, qui vivent peut-être aussi une sorte de situation de déclassement et qui comprennent pas pourquoi leurs parents, eux, ont trouvé du travail rapidement, pourquoi eux, ils en trouvent pas. Enfin, je pense qu'il y a, voilà, peut-être un petit souci de déclassement aussi pour certains jeunes par rapport à nos parents, qui c'est la génération des baby-boomers. Je pense qu'ils n'ont pas eu trop de soucis au niveau des travails, ils n'auront pas de soucis au niveau de leur retraite. Et c'est vrai que nous, on est une génération dans une période un petit peu charnière où on se dit... Il y a du chômage, les retraites ça va sauter, le système français est peut-être en train de vaciller. C'est peut-être une génération qui se pose beaucoup plus de questions par rapport à son avenir et qui a moins de certitudes. J'ai fait une école de commerce après des études en lettres, tout simplement parce que le seul débouché quasiment des études en lettres, c'est de devenir professeur. Et en fait, c'est quelque chose que je voulais pas faire. Du coup, j'ai cherché d'autres voies et faire une école de commerce, ça me paraissait suffisamment généraliste pour ouvrir ensuite pas mal de portes et faire un petit peu ce qu'on voulait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. L'idée de faire une école de commerce, en fait, c'était de m'assurer déjà de m'assurer un travail. Parce que si elle est suffisamment bien cotée, ben, on est quasiment garanti d'avoir un boulot à la sortie de ses études. Donc en fait c'était ça l'idée, c'était d'avoir un filet de sécurité qui me garantissait un emploi quoi qu'il se passe et quoi que je veuille faire, j'aurai au moins ça dans mes bagages pour pouvoir trouver du travail assez facilement. Au fond j'ai jamais vraiment su ce que je voulais vraiment faire, du coup le raisonnement que j'ai eu c'est d'abord de me faire un filet de sécurité et après de voir ce que je veux faire et la question de qu'est-ce que je veux vraiment faire, je crois que je l'ai toujours pas donc... L'idée, c'est d'avoir voilà, le bagage qui me permet de ne pas être au chômage, en tout cas en démarrant ma vie. J'ai eu envie de faire un doctorat à un moment. Là, c'est à nouveau, j'ai dû à nouveau faire un choix, effectivement, entre d'un côté essayer d'avoir un métier posé, de bien gagner sa vie, d'avoir un métier gratifiant intellectuellement, et de l'autre de se dire je vais faire un doctorat en histoire, c'est aussi peut-être beaucoup plus gratifiant intellectuellement. J'ai vraiment hésité, mais après je me suis dit que c'est pareil, enfin, avoir un doctorat en histoire, c'est vraiment un coup à finir au chômage si on trouve pas de poste en université. Il y a énormément de gens qui font des doctorats en histoire, donc je me suis dit est-ce vraiment bien la peine de sacrifier des années à écrire un truc que personne n'ira jamais pour finir au chômage. Donc là-dessus, j'ai à nouveau dû faire un choix et j'ai choisi effectivement de me lancer sur le marché du travail, d'envoyer des CV dans des grandes entreprises pour faire quelque chose pour lesquelles j'étais formée par une école de commerce. Alors, je suis analyste financier pour un grand groupe français. Donc, au quotidien, mon travail consiste en réaliser des études financières. C'est souvent sur des sujets, par exemple, d'acquisition dans d'autres entreprises ou d'investissement interne pour l'entreprise. Donc, c'est un travail assez quantitatif qui consiste grosso modo à passer sa journée sur Excel, à réaliser des tableaux, des modèles Excel. Donc c'est un travail qui peut être assez solitaire en un sens, parce qu'on passe beaucoup de temps derrière son ordi. On a quand même des contacts pour aller chercher de l'info, on a des contacts à l'extérieur, en interne. Parce qu'il faut, c'est aussi du travail d'équipe, mais c'est un travail qui est un petit peu moins sociable, par exemple, que celui d'un professeur, d'une infirmière ou d'un artiste. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est un travail vraiment très collectif où l'on est au contact de beaucoup de personnes. Donc c'est aussi une des limites du métier. Enfin, c'est pas forcément ce à quoi j'aspirais depuis que j'étais toute petite. Je me serais bien vue étudier la médecine aussi, mais du coup j'ai pas forcément rebondi sur ça. Je pense que ça m'aurait plu, mais du coup je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait en fait parce que c'est une idée que j'avais eue après la terminale. Et puis j'étais en terminale littéraire, on m'avait dit que pour faire la médecine il faut être bon en maths, faut faire un bac S. Comme j'avais un bac L, je me suis dit, ah bah je peux même pas aller en médecine parce que j'ai pas le bon bac. Et du coup, je l'ai jamais fait, j'ai appris que plus tard qu'en fait on pouvait quand même faire en médecine si on avait un bac littéraire. Et du coup, après c'était peut-être un peu tard parce que j'étais trop avancée dans les études pour recommencer depuis le début. Alors c'est un petit peu ironique parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis quand même amenée à manipuler des chiffres et du coup j'ai pas mal rattrapé le niveau en maths. C'est pas grave. De toute façon, la vie est quand même assez longue, donc foncièrement, si je voulais faire médecine, je pourrais quand même le faire. C'est vrai qu'après, c'est des études très longues et à ce stade de ma vie, j'ai pas forcément envie de me replonger dans les études. Alors, ma journée type, je pars bosser vers 8h. J'arrive au travail vers 9h, je suis en rez-de-chaussée et je retrouve mes collègues sur un grand plateau où on est une quinzaine sur un plateau et donc ça commence comme ça. Après donc je vais boire des cafés pendant la journée avec mes collègues, à midi on déjeune tous ensemble, on prend à peu près une heure de pause déjeuner. Le soir je pars vers 19h, donc j'arrive sur Paris, je travaille en banlieue, j'arrive sur Paris, il est 20h. Et là, en général, ben, j'appelle mon copain, je prépare à manger, je lance une lessive, hein, je fais des choses assez normales, hein, assez classiques, comme essayer de ranger mon intérieur. Je regarde Game of Thrones, s'il y a un épisode qui vient de sortir, donc des fois je regarde des séries télé. Puis sinon, voilà, je passe 2-3 coups de fil, je fais 2-3 recherches sur Internet, et c'est à peu près tout. Après, vers 11h, je vais me coucher, 11h30.
Man,
Alors j'ai une vie assez, enfin j'ai une vie qui est rythmée par le travail, donc je travaille à peu près de disons de 9h à 19h, ce qui en soi sont des horaires assez normaux pour des cadres en région parisienne. Donc je suis pas à plaindre là-dessus. J'ai une vie, je pense, j'essaie d'avoir une vie assez équilibrée entre ma vie professionnelle et mon travail. Après, c'est vrai que quand on est pris dans le quotidien des choses, on se pose pas des questions tous les jours, des questions existentielles sur ce qu'on va faire demain. Après, c'est plus des questionnements qui me viennent de temps en temps, par période, où je me dis qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, est-ce que je ferai ça toute ma vie? Et là, des fois, je me dis que non, que peut-être que dans 5 ans, je serai professeur, peut-être que dans 10 ans, j'aurai ouvert une boîte de, je sais pas, un commerce ou... Enfin, de temps en temps, j'imagine des pistes comme ça de sortie ou d'autres... où j'envisage d'autres métiers, en fait. Et plutôt de préférence en province. J'ai l'intention d'avoir des enfants, de fonder une famille plus tard. Et je suis pas sûre que la vie parisienne soit adaptée à, par exemple, au fait d'avoir des enfants, d'avoir un jardin, de pouvoir faire des sorties le week-end. Donc ça fait aussi partie de la stratégie que je pourrais adopter pour essayer de rejoindre mon copain qui habite à Rennes. Et donc ça, je pense que c'est un métier qui me plairait pas mal, en fait. Ouais, qui pourrait me plaire et m'épanouir aussi socialement et professionnellement, donc qui est très très différent de ce que je fais actuellement. Mais je me dis, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut. Enfin, je vais essayer, en tout cas dans ma carrière, d'avoir plusieurs carrières et de faire des choses différentes pour jamais justement me lasser. Donc ça pourrait être quelque chose d'envisageable dans lequel je pourrais me retrouver professionnellement.
Simplifier la partie basse, genre si on la joue en acoustique, genre de faire toum, toum, non, genre toum, 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 je sais pas, tu vois, genre juste qu'elles soient un peu moins vénères derrière, peut-être.
Comment est-ce qu'on peut définir qui a réussi sa vie ou pas. Peut-être que le mec qui a une Rolex, il va dire qu'il a réussi sa vie. Peut-être que la mère ou le père de 3 ou 4 enfants vont dire que ce sont eux qui ont réussi leur vie. Enfin, chacun définit un petit peu son menu, si je puis dire, entre un équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, vie amicale, et chacun compose un peu la façon dont il veut réussir sa vie. Pour l'instant, dans l'étape de réussir ma vie, j'ai au moins la brique. J'ai la brique boulot, j'ai la brique copain, après il restera les enfants. Ce qui est difficile, c'est pas tant de poser toutes ces briques, mais d'arriver à faire qu'elles tiennent ensemble, en fait. C'est surtout ça le plus difficile. Ouais.
Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'avais titré « Alice a une vie de merde » comme beaucoup d'autres. À l'écoute de ce reportage, vous vous dites peut-être « Finalement, Alice, elle est pas si mal que ça, c'est une jeune fille moderne. » Et c'est justement là où je veux en venir. Pourquoi Alice, qui est une jeune fille moderne, a en fait une vie de merde alors qu'elle s'en aperçoit même pas? Voilà. Et pourquoi vous trouvez qu'elle a une vie normale? Parce que, en fait, une fille qui n'a envie de rien de spécial, qui ne sait pas vraiment où elle va, ce qu'elle veut faire, et qui ne sait même pas pourquoi elle l'a fait, si ce n'est pour des questions matérielles, eh bien, c'est misérable. Voilà. C'est pitoyable. C'est une vie de merde. Ça s'appelle une vie de merde. Elle ne vit pas ses rêves, elle ne vit pas ses désirs. Elle n'a que des mots comme filet de sécurité à la bouche. Deux fois, elle le répète. Pragmatique. Hein, elle est obsédée en fait par ça, par son travail, complètement isolée dans son quotidien, vivant seule. Il n'y a plus que son travail qui compte. Hein, voilà ces femmes qui se sont sorties de leur foyer pour être aliénées, complètement aliénées au marché du travail. On voit l'aliénation de manière pratique là ici. Hein. Elle ne veut pas démarrer sa vie au chômage. Elle répète, elle n'a que ça à la bouche. Elle ne pourrait que se réaliser dans un travail intéressant. Elle imagine, elle nous parle jamais de famille, quasiment jamais. Elle nous parle une fois de son petit copain qui est à Rennes, qui est du côté de Rennes, qu'elle pourrait peut-être rejoindre, mais qu'elle rejoint pas. On se demande pourquoi. Hein? Saute à Rennes si tu l'aimes. Hein? Tu m'entends, Alice? Vas-y, saute dessus, là. C'est l'amour de ta vie. Fonds dans ses bras et puis... Et vas-y, risque tout, là. Tu emménages chez lui demain et puis vous allez vous aimer. Hein? Mais non, mais cette génération, mais c'est quoi ce bordel? On nous avait promis l'amour, on nous avait promis les mariages d'amour, les divorces, les séparations, que ça allait tout arranger. Elle considère son copain comme une brique. Elle parle de lui en termes de briques. C'est une brique avec le travail. Il faut arranger les briques entre elles. En guise de brique, en fait, personnellement, j'ai plutôt l'impression que la brique est en train de prendre sacrément l'eau. Hein. Cette jeune fille a une vie de merde, car rien n'est sacré pour elle, et qu'elle traite métier, homme, maternité, comme des choses. C'est vraiment grave. Grave. Hein. Elle ne veut pas faire de doctorat parce que ça serait un truc que personne ne lira. Hein. Comme s'il n'y avait pas une gloire de faire un doctorat. La gloire, on a même perdu la notion, elle a même perdu, comme beaucoup de gens, la notion de la gloire de faire quelque chose pour la gloire de la culture, la gloire de l'intelligence. Hein. Et être passionné. Est-ce qu'on entend une fille passionnée? Non, encéphalogramme plat, zéro, boulot de merde, elle ne voit... Ah, les mères au foyer, on dit aujourd'hui les mères au foyer, elles ne voient personne. C'est vrai qu'on a tout détruit, on a détruit toutes les structures sociales, toutes les structures associatives autour des femmes, des mères. Elles ont des difficultés, effectivement, pour se retrouver de nos jours, hein, ça c'est vrai. Mais regardez le boulot de cette fille, de Alice, là. Elle ne voit, elle le dit elle-même, elle ne voit quasiment personne de la journée. Et elle imagine que dans d'autres boulots, c'est différent, que si elle avait fait ci, que si elle avait fait ça, ça serait peut-être différent. Elle ne voulait surtout pas faire professeur, puis maintenant elle commence à se dire qu'elle va peut-être faire professeur. Pourquoi elle a changé d'opinion entre-temps? Parce qu'elle a cru toutes les conneries de la société marchande, où elle a voulu s'intégrer complètement en faillite affective. Le seul truc qui l'intéressait, c'était son travail, évidemment. La pauvre, pauvre fille. Donc, et maintenant qu'elle s'aperçoit que le travail, c'est pas ce qu'on lui avait vendu, que la liberté, c'est pas ce qu'on lui avait vendu dans son petit appartement de merde, et bien, au lieu de rejoindre son copain, lui sauter son abonnement, non, parce qu'elle a construit une relation de merde, évidemment. C'est une relation de merde. Elle sait pas où elle va. Voilà. Hein, elle passe sa journée devant un ordinateur, un technicien, pourrait certainement faire son travail. Comme elle dit, elle est sous-employée. Hein, parce que c'est un boulot de merde, ça aussi. Voilà, avec sa vie de merde, elle a un boulot aussi de merde. Faut bien dire ce qui est. Et ils sont combien en France aujourd'hui à vivre leur vie là comme ça, hein, dans notre société riche, soi-disant. Et puis de petites concessions en petites concessions, ben on arrive tous à reculer. Hein, on a plus que le travail à l'esprit. On pense que ça va régler nos problèmes affectifs et humains, mais c'est le sens contraire. Plus on investit comme ça dans le travail, plus affectivement et humainement, ça prend l'eau, tout ça prend l'eau. Hein? On aura un jour des milieux du travail qui redeviendront intéressants quand il y aura des hommes passionnés dans ces travaux-là, qui seront accueillis par la petite femme passionnée de faire ce qu'elles font, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Parce que le jour où Alice va avoir un enfant, mais je sais ce qui va se passer, tout le monde sait ce qui va se passer. Elle va fondre pour le gamin, et puis elle va se dire, ah ben finalement, ça aussi, c'était pas ce qu'on m'avait dit, hein, pauvre cruche. Hein, parce que tu crois, qui c'est qui t'a mis des bêtises comme ça dans la tête? Hein? Justement, dans la même émission, il y a cet homme-là qui est passionné, qui est extraordinairement passionné, et lui, il ne vit que pour sa passion. Voilà, on a les deux points de vue qui sont devenus irréconciliables. C'est-à-dire que maintenant, d'un autre côté, en tant qu'homme, on est en train de donner... On a toujours vécu de passion pour notre métier. On continue. On continuera, je pense. Et puis, d'un autre côté, eh ben, on a des filles qui ont pris nos places dans ces métiers-là, qui, elles, n'en ont rien à foutre. Donc, nous, on ne fait pas d'argent d'un côté. Les métiers ne profitent pas de notre passion, de notre envie, etc. Et puis, elles, eh ben, elles font le boulot machinalement, et puis elles vivotent, quoi. Et puis, elles font vivoter dans leur milieu de travail. Il faut pas dire qu'elles cassent des briques. À mon avis, ça casse pas des briques, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle propose intéressant à sa boîte, Alice? C'est pas possible. C'est aucune initiative. Enfin, je veux dire, d'abord, c'est vrai qu'on lui demande pas ça. D'un autre côté, faut faire bouger les choses. Et un homme les aurait fait bouger, lui. Voilà. Et elle, ben, elle va s'apercevoir tout d'un coup quand on aura un enfant que finalement c'était peut-être pas plus mal, qu'il fallait qu'il faut arrêter ces conneries là, d'aller devant un ordinateur toute la journée, c'est peut-être mieux d'être à la maison même si on est un peu seul, entre être un peu seul avec un enfant et finalement être un peu seul devant un ordinateur, elle se dira peut-être, et je l'espère d'ailleurs pour elle, parce que l'enfant c'est mieux quand même, que c'est plus humain. Bon, il y a le cas aussi vraiment des malades mentales qui, elles, investissent plutôt, qui trouvent encore qu'un écran d'ordinateur, bah, c'est mieux, quoi. Bon, bah, celle-là, on peut rien pour elle, quoi. C'est les fins de race. C'est des fins de race complètes. J'aurais peut-être l'occasion dans une autre vidéo d'en choper une. Bon, des Alice, il y en a plein. Hein. C'est pas elle que je veux stigmatiser, évidemment. Hein. Si vous en connaissez tous autour de vous. Elles vont se faire un enfant bientôt. Elle a 25 ans, je crois. Bon, ça va commencer à la torturer, je sais pas, je pense qu'à 30 ans, ça devrait être fait. Bon, à 30 ans, elle va commencer vraiment à se torturer, puis elle va faire ça plus ou moins n'importe comment, normalement. Et puis après, ben, ça va être le n'importe quoi va se rajouter au n'importe quoi. Parce qu'un enfant a besoin d'humanité, il a besoin d'un père et d'une mère, mais bon, ça, comme elle doit être persuadée, comme cette génération, qu'un père et une mère pour un enfant, c'est bon, on s'en fout, finalement, un homme, ça peut être remplacé par une femme par un homme. Donc, je pense qu'elle va penser ça, et puis que, au final, ben, ça va être du n'importe quoi. Mais bon. Elle peut espérer, vous voyez, vous qui m'entendez là, vous avez 25 ans, 25 ans, vous avez encore l'espoir, c'est bien, continuez, hein, continuez à espérer, bande d'imbéciles.